Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Il est présentement 9h33, donc j'embarquerai directement avec ma chronique, là, comme je vous disais, qui va porter sur le serment d'allégeance qui a divisé la Chambre des communes hier. Je ne sais pas, les gars, si vous en avez entendu parler ou vu passer ça dans l'actualité.
Franchement, non. Je suis un peu occupé avec la fin de session, fait que je dois avouer que l'actualité en ce moment prend un peu le bord.
Bah, j'en ai entendu un petit peu parler, mais j'ai vraiment pas porté attention également parce que la fin de session, vraiment, en ce moment...
Fin de session ou le foot?
Fin de session. Okay.
Parce que hier, je suis rentré dans l'assaut étudiante, okay, puis je voyais un Léopold étendu sur un sofa.
C'était sa pause d'études.
Ouais, c'était ma pause. J'avais besoin de ma pause. Je regardais mon équipe.
Pour vrai. C'est correct aussi de prendre une pause de temps en temps.
Donc, c'est ça. Donc, hier, à la Chambre des communes, il y a un projet de loi visant à rendre facultatif le serment d'allégeance au roi pour les parlementaires qui a été rejeté. Le projet de loi C-347 avait été proposé un an plus tôt par le député acadien René Arsenault.
Donc ça s'est fait au fédéral.
Exactement.
C'est quand même gros. Est-ce que le fédéral dit comme quoi on n'est plus obligé de passer les serments?
Ben c'est ça qui divise. Là. Je vais l'aborder un petit peu plus loin. En fait, au niveau des... Ben, je peux en parler tout de suite. Au niveau des arguments en faveur et en défaveur du projet de loi. Donc, pour certains, abolir ce serment était une question de dignité et de respect envers l'histoire acadienne. Tandis que pour les autres, ben, en fait, on voyait l'initiative là, comme une attaque contre la monarchie britannique. Parce que qu'est-ce que contenait le projet de loi? Si ça avait été adopté, ça aurait donné aux parlementaires le choix entre le serment traditionnel au roi et un nouvel engagement envers le Canada et sa constitution. Donc, moins dirigé au niveau de de Sa Majesté, ça se dit-tu pour... Oui,
de parfait. Sa Majesté, le roi.
Sa Majesté, le roi. Parce qu'on dirait, j'ai eu mes cours constitutionnels pendant que la reine était encore parmi nous. Là. Donc, on dirait qu'on a encore de la misère à s'adapter là, souvent aussi dans les jurisprudences. Ouais. C'est la reine contre quelqu'un.
Ouais.
Fait que dire le roi, je suis pas encore habituée.
C'est bizarre, là, comme ça fait longtemps aussi que c'est la reine. Oui. Puis même avant, c'était pas directement avant, mais il y a eu la reine Élisabeth I aussi. Puis
oui, c'est ça.
Il y a
eu
plein d'affaires. Ouais, il y a eu beaucoup de reines quand même récemment. Ouais. Ben récemment, entre guillemets. Ouais.
Leur règne est tellement long que récemment est long.
Ouais.
Donc, avec une majorité là, de 197 en défaveur du projet de loi contre 113, en fait, il n'a pas réussi à passer l'étape du vote en seconde lecture. Pour l'anecdote, à l'annonce des résultats, quelques députés ont commencé à chanter l'hymne national du Royaume-Uni, « God save the King ».
Mais voyons
donc. Pour montrer leur appui... au fait que ça allait pas passer.
Ça m'étonne pas, mais en même temps, je trouve ça un peu... Je trouve ça triste, c'est que tout le monde... On dirait que, pour moi, en tant que Canadien, Français, Québécois, même...
Mais Québécois,
surtout
ouais.
Québécois, là, on va dire, comme je vois pas l'attachement à la reine que toutes les, admettons, les provinces de l'Ouest et qui apportent, puis que pour eux autres, c'est super important. Je sais pas.
Je pense qu'il y a vraiment une sorte une différence entre, je veux dire, nous au Québec et vraiment les autres provinces. Surtout là, au niveau des anglophones, je pense qu'il y a une perspective différente. Il y a un plus gros attachement, clairement.
Ouais.
Mais c'est sûr que... Puis surtout, tu sais, on peut penser que eux, ça venait avec eux, alors qu'au Québec, c'est un peu... Dans l'historique, ça a été imposé, cette monarchie. Sur le Québécois, donc c'est sûr. Puis aussi, même au niveau des immigrants, tu sais, quand on devient Canadien, il y a le serment d'allégeance, donc on prête allégeance aussi au roi, à la reine, que j'ai dû personnellement aussi faire.
C'est vrai.
Donc il y a un attachement.
Tu viens de où, excuse-moi?
Ouais, moi, je suis né en France d'une famille franco-italienne, pas mal. En résumé, vite. Mais c'est ça, en devenant Canadien, on doit faire le serment, justement. Donc c'est sûr que les gens issus plutôt de l'immigration ou qui sont anglophones ont un petit peu un plus grand attachement parce que c'est un peu une signification de leur accomplissement de devenir canadien. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a un attachement complètement différent que les Québécois natifs ont vraiment une perspective opposée.
Mais c'est comme j'ai appris que j'ai un ami maintenant qui habite en Ontario et c'est ça, dans les écoles, des fois, ils vont faire l'hymne national canadienne avant comme le début des classes ou comme avant quoi que ce soit, qui est comme à des moments où est-ce que c'est tout le temps comme ça, ok, puis. Fait eux autres, ils vont vraiment souvent le réciter. Moi, je pourrais même pas, je suis même pas capable de le réciter parce qu'ici, on s'en torche.
Moi, je connais au Canada.
T'as de nos amis. Je la connais surtout à cause des Canadiens de Montréal, quand les games. mais clairement, là, c'est de quoi qui est vraiment différent. De... Mm.
Mais c'est sûr, puis tu sais, comme t'évoquais, par rapport aussi aux nouveaux arrivants, ils doivent passer, comment qu'on appelle, un espèce de test.
Ouais, le test de nationalité.
Ouais, exactement, pour obtenir la nationalité, puis pour en avoir pris connaissance là, de manière générale. Mm-hmm. Ça porte beaucoup sur l'histoire, là, notamment avec le Royaume-Uni.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça l'instaure là, déjà en partant.
C'est très impressionnant, ce test-là, comment il est très, très dur et comment, en fait, au moins les trois quarts des Canadiens ne seraient pas capables de réussir ce test.
Ah ouais?
Ouais, c'est vraiment... Trois quarts, peut-être, j'exagère un peu, mais je sais qu'au moins la moitié des Canadiens ne seraient pas capables parce qu'il est vraiment très, très dur. Là. On demande quand même... des sacrés cours d'histoire aux nouveaux arrivants.
Il y a un certain manque. Je ne sais pas si c'est... moi, je pensais que c'était peut-être au niveau de ma connaissance générale. Là. J'ai jamais été portée nécessairement vers l'histoire avant d'être en politique. Mais pour avoir lu des questions avant, si ce n'était pas de mes cours en droit constitutionnel, j'aurais eu beaucoup de misère à répondre.
Mais moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais comme fait, mais ça reste que, clairement, j'en ai déjà entendu parler, qui est comme quoi c'est un problème ou est-ce qu'il est trop dur. Puis, le note un peu plus farfelu, qui est comme, j'écoutais How I Met Your Mother, qui est, puis genre, c'est
très américain. Peux-tu répéter le nom?
How I Met Your Mother.
Ouais, c'est une excellente émission. Je regardais ça hier, justement.
C'est tellement bon, puis à un moment donné, qui est
justement... Pendant une autre pause, je suppose,
d'être ouais, quand je suis rentré chez moi, à 23h, là, pour me reposer.
À 23h, c'est le temps pour les How I Met Your Mother.
Ouais, c'est... Ouais.
Mais... C'est ça, il y avait une blague qui par rapport à ça, parce que eux autres, ils rient tout le temps des Canadiens, parce que Robin est canadienne. Puis, en tout cas, fait que là, ils disaient comme, ah, ben, le Canada, il devrait payer le monde pour qu'ils viennent. Mais en tout cas, bref, je me rappelle plus pourquoi je disais ça, mais ça m'a fait penser à ça. Okay?
Mais on parlait du test, je pense que tu disais qu'il se moquait pas mal.
Ouais. Mais... Comme quoi, il est facile, mais il est pas facile dans la vraie vie.
Non, vraiment pas.
C'est quoi?
Oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est un épisode où il se moque un peu comme si c'était, il n'y avait pas grand-chose, c'était
hyper c'est facile. Ça.
Ouais.
Mais en réalité, c'est très, très dur. Ouais. Très, très dur.
Je me demande, okay, pour rentrer aux États-Unis, s'il y a un test. Puis, il me semble qu'il y a un test, mais je sais pas à quel point il est dur.
Je sais pas, mais je pense que justement, dans la peur de ces tests-là, il y a quelque chose qui a remarqué que même la population locale serait pas capable nécessairement de réussir en majorité.
Mais
c'est quand même très intéressant, c'est comme tendance. Mais...
Ouais.
Mais je sais pas si en fait, c'est le fait de grandir là-dedans qu'on est moins. On est moins porté. En fait, c'est notre réalité, fait qu'on se dit pas, ah, je vais m'informer là-dessus. C'est ce que je vis au quotidien.
Ouais.
Là,
ben oui.
Je sais pas si vous comprenez, c'est de la misère. Quelque...
Ouais, non, je comprends totalement. Puis c'est aussi que c'est quelque chose d'acquis. Je veux dire, quand tu es ici, t'as pas besoin de prouver que tu veux.
Ouais.
T'as pas besoin de faire un test pour prouver que hey, moi, je veux voter au Canada.
Sauf
t'es né ici. Puis je veux dire, pour un nouvel arrivant, c'est prouver que t'as un accomplissement, puis t'as réussi, puis que tu peux participer démocratiquement au Canada et au Québec. Donc c'est clairement, il y a une certaine volonté, puis de demande qui est nécessaire. Donc c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus portés à.
Puis c'est sûr aussi que ça demande à la personne immigrante de clairement faire un pas vers « Hey, je veux apprendre votre culture, je veux apprendre comment vous fonctionnez et tout. » Donc, de forcer ça, c'est un peu de demander qui est comme « Hey, on veut juste que tu sois prêt, qui est comme quand que tu vas rentrer. » Ben, comme ça, on sait que toi, tu as un désir d'immigrer puis de faire partie aussi des nôtres.
Puis aussi, ça permet justement, comme on dit, tu disais que ça... quand tu es ici, tu as la réalité, donc tu le vois, mais c'est aussi pour quand tu arrives ici, de comprendre aussi la réalité que un Québécois va se ressentir ça face à un nouveau projet de loi, face à une langue où un Québécois va vouloir, exemple, à propos de la loi 100, la loi 21. Mm-hmm. Quand tu comprends l'histoire du Québec et du Canada, ben, tu comprends mieux pourquoi il y a ces projets de loi-là qui passent. Tu comprends mieux. Donc, c'est sûr que c'est... Oui, tu apprends l'histoire, mais en même temps, tu comprends comment les gens pensent aussi.
Ben, c'est ça, tout est influencé par ce qui s'est passé aussi avant. Là, la politique m'a beaucoup fait réaliser ça, que rien n'arrive pour rien, puis il y a une raison derrière. Puis souvent, il faut juste surmonter quelques années plus tôt là, pour comprendre. Mais ça avait aussi les mêmes questionnements là, autour... notamment là, de la monarchie avait été soulevée, puis on avait vu vraiment une distinction là, dans les idées au niveau de la population. C'est lorsqu'il y a eu toute l'histoire entourant là, la gouverneure générale Julie Payette.
Mais aussi, il y a toujours ce questionnement-là de la pertinence justement des gouverneurs généraux. Du gouverneur général, comme en ce moment, j'ai vu aussi, il y a le premier ministre français Gabriel Attal qui est en visite au Canada. Je ne sais pas si vous avez vu. Dû au projet d'accord entre le Canada et l'Union européenne qui a été rejeté par le Sénat en France. Justement, il fait une visite et là, il a rencontré la gouverneure générale qui, justement, ne sait pas parler français, qui est née au Québec, mais ne sait pas parler français. Donc, tu sais, c'est... À ce point-là, où est vraiment la pertinence? Parce que son poids en papier est là, son poids en réalité...
C'est symbolique, c'est ça.
Zéro. C'est d'où on paye une personne qui n'a aucune vraiment utilité. À part avoir un beau sourire puis recevoir des gens, ce qu'un premier ministre est capable de faire, dans ma perspective, là, c'est surtout mon opinion. Mais vraiment, on peut vraiment remettre en cause hein, les gouverneurs généraux, leur pertinence symbolique. Mais c'est sûr que c'est très dur à retirer.
Ben, en fait, il faut l'unanimité, là, tout ce qui concerne la monarchie, la reine, le roi, etc. Il faut que toutes les provinces s'entendent. Puis, comme on disait plusieurs fois, nous, on n'a pas nécessairement un attachement envers la monarchie pour diverses raisons, dont ceux historiques. Mais il y en a d'autres que c'est totalement l'inverse.
C'est fou. Mais c'est fou, j'avais remarqué ça aussi quand j'étais parti en échange. J'avais fait un échange étudiant en Autriche, j'avais rencontré d'autres Canadiens. Puis surtout, en fait, c'était tous des anglophones. Et c'était vraiment intéressant de voir la façon de penser qui était vraiment différente, surtout sur ces sujets politiques qui étaient vraiment différents des Québécois. Puis comment on grandit ici, là, dans notre rapport à l'histoire. On dirait des fois même qu'on raconte des choses, puis on dirait qu'ils n'ont pas du tout vécu la même histoire que nous, qu'on se fait enseigner. Donc c'est vraiment drôle de... on est dans le même pays, mais l'enseignement est tellement différent.
C'était d'idéologie malgré tout. Là.
Comme clairement, qui est justement juste dire, OK, c'est quoi qu'on va enseigner dans l'histoire? C'est ultra-politique. Au Québec, on
fait juste penser aux pensionnats qui ont été omis années pour se déculpabiliser en soi. Là.
À quel point tu penses j'ai aucune idée si aujourd'hui on en parle dans les cours.
Ça serait intéressant de regarder. Mais je pense qu'il y a plus de mentions. Est-ce que tous les profs sont à l'aise d'en parler? Ça, je pense que c'est aussi ça, parce qu'il faut quand même bien connaître le sujet. Puis dans les formations des profs.
Souvent, ils invitent des gens de la communauté à expliquer leur histoire. Fait que ça, c'est encore plus pertinent parce que. C'est les personnes qui expliquent leur histoire. Fait que c'est pas biaisé d'aucune manière.
Après, je veux dire, c'est aussi le travail du professeur de se renseigner sur un sujet que peut-être qu'il a pas vu quand il était aux études. Ce qui est normal, c'est pas de sa faute. Mais c'est aussi un peu son travail de se renseigner sur des nouvelles choses. Parce que c'est vrai que quand on crée un livre d'histoire, on met de l'avant peut-être qu'un événement n'est pas nécessairement le plus marquant de notre histoire. Mais vu qu'il y a une certaine symbolique derrière ça, on va le culminer face à toutes les autres, alors qu'il y a plein d'autres événements que finalement, vu que le temps avance, on revoit que cet événement est tellement important. Comme les pensionnats, justement, on voit que c'est très important.
Absolument, mais merci d'avoir participé, les gars. Et on va aller en
pause.
Exactement, puis on vous revient pour une autre chronique.